Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Science, Quelles Histoires, un podcast de la Fondation Ibsen. Dans l'épisode précédent, nous avions évoqué le contexte de la création de l'Hôtel Royal des Invalides, ainsi que les critères d'admission et la typologie de ses pensionnaires. Aujourd'hui, nous terminons notre cycle en évoquant le laboratoire social qui était l'hôtel et la compréhension du handicap à la fin de l'époque moderne, que l'on peut déduire en étudiant les registres des Invalides. Allez, c'est parti. Selon Elisabeth Belmas, l'Hôtel Royal des Invalides a servi de laboratoire social dans trois domaines au moins. Il faisait en effet office de maison de retraite, de caserne et d'hôpital. En ce qui concerne la maison de retraite, il ne faut pas s'imaginer la retraite comme nous l'imaginons aujourd'hui. Pour les pensionnaires des Invalides, cette retraite, tout du moins dans les premières décennies de sa création, était très active. L'activité était en effet encouragée, des manufactures étaient installées au sein de l'institution, ce qui permettait aux résidents de pouvoir à la fois fabriquer les uniformes des pensionnaires, mais aussi des tapisseries qui étaient ensuite revendues dans Paris. Louis XIV lui-même en commanda pour la chapelle de Versailles. Mais petit à petit, ces manufactures disparaissent car les artisans parisiens voient d'un mauvais œil cette nouvelle concurrence et surtout, car face au nombre croissant de personnes à prendre en charge, il y a besoin de plus d'espace pour accueillir les nouveaux arrivants. Quoi qu'il en soit, l'activité reste encouragée et se déplace vers des travaux d'entretien du bâtiment, mais pas que. Elisabeth Belmas nous cite plusieurs métiers tels que barbier, sacristain, fossoyeur ou encore garçon d'infirmerie. Les pensionnaires sont pris en charge par l'institution de manière totale. Ils sont nourris, logés, blanchis, soignés. Pour les plus lourdement atteints, d'autres soldats les aident au quotidien. Des espaces de loisirs et de sociabilisation sont également à disposition, que ce soit des fumoirs, des espaces de jeux ou encore une salle de comédie, à partir de 1777. Mais il ne faut pas non plus oublier que l'Hôtel Royal des Invalides reste un lieu d'accueil pour des militaires, qu'ils aient fini leur carrière ou non. Ainsi, le cadre de vie reste à l'image de ce que les soldats ont connu pendant leur carrière. Uniforme, hiérarchie, rythme de la journée, tout est réglementé avec minutie. Les pensionnaires sont répartis en trois classes, les soldats, les bas-officiers et les officiers. Et bien entendu, selon la classe dans laquelle vous vous trouvez, les privilèges et autres avantages sont différents. Ainsi, les officiers ont une cuisine séparée et mangent dans un lieu différent des soldats. Ils sont également mieux logés puisqu'ils partagent une chambre à deux contre des dortoirs pour 4 à 6 personnes pour les soldats. Les exercices militaires sont également quotidiens puisque les pensionnaires sont répartis à travers 25 compagnies. Ils montent la garde, font des rondes, accueillent de manière solennelle les grands personnages du royaume qui leur rendent visite. Ils sont également tenus de respecter une certaine rigueur puisqu'il leur est interdit de dormir ailleurs qu'à l'Hôtel Royal des Invalides. Ils ne peuvent pas non plus se marier, ni blasphémer. Ainsi, Elisabeth Belmas nous précise que tout manquement à la règle est sanctionné de façon proportionnelle à la gravité de la faute. De son côté, la création et l'organisation de l'Hôpital des Invalides est sans aucun doute la partie qui aura le plus d'influence sur les générations futures. Installées au sud-est de l'hôtel, les infirmeries sont à la pointe de ce que l'époque avait à proposer. Véritablement autonomes puisqu'elles disposaient de logements, d'une cuisine et d'un réfectoire, elles accueillaient les arrivants qui nécessitaient des soins immédiats et les pensionnaires qui tombaient malades. Le personnel médical est nommé par brevet royal sur recommandation du directeur et de l'administrateur général. La hiérarchie est claire et divisée entre trois services, la médecine, la chirurgie et l'apothicairerie. Comme pour les pensionnaires, le rythme de la journée est militaire puisque le personnel est tenu de loger au sein de l'hôtel et d'effectuer de véritables tours de garde. Au sein de l'infirmerie, on compte jusqu'à 550 lits disponibles. Différentes salles, selon les pathologies, sont à disposition. Les officiers sont bien évidemment soignés dans des salles spéciales prévues à cet effet. Les malades souffrant d'affections contagieuses sont soignés au premier étage. Les aliénés, comme on les appelait à l'époque et qui souffraient en fait de troubles mentaux, sont enfermés à part. On appareille également les estropiés, avec souvent des prothèses qui permettaient de faciliter la déambulation. On aère régulièrement les pièces et l'on chauffe à l'aide de grands poêles à 22 degrés. La nourriture est également adaptée au type de blessure, puisque les purées et autres soupes sont privilégiées pour les soldats blessés au visage, sans dents ou avec une mâchoire fracassée. Cet encadrement bien pensé et très rigoureux pour l'époque permet à Elisabeth Belmas de faire le commentaire suivant, je cite « Un pareil encadrement médical assorti à tant de précautions d'hygiène ont assuré un état sanitaire correct tant aux patients des infirmeries qu'aux pensionnaires de l'hôtel, puisqu'on n'y a signalé aucune épidémie grave sous l'Ancien Régime. » Fin de citation. L'expertise arrivant rapidement, les infirmeries évoluent et deviennent également un endroit où les médecins militaires viennent s'instruire. À partir de 1727, un cours d'anatomie est donné au sein de l'institution avec une salle de dissection. Dans le bâtiment, tout est pensé pour favoriser l'accessibilité. Si vous vous rendez aux Invalides, vous noterez que les marches sont larges mais ont une faible hauteur, ce qui permettait aux pensionnaires avec par exemple une jambe de bois de pouvoir les monter très facilement en pouvant garder la jambe appareillée tendue. L'hôtel royal des Invalides représente donc un lieu unique pour l'époque où le handicap avait été pensé en profondeur. Il apparaît donc important de s'intéresser à la manière dont on parlait du handicap à l'âge d'or de l'institution. Mais comme nous le précise Joël Coste, professeur à l'Université Paris-Descartes et auteur de l'article « Penser le handicap à l'époque moderne », le discours de la maladie, de la blessure et de leurs conséquences dans le registre d'admission de l'Hôtel Royal des Invalides de 1670 à 1791, les registres d'admission sont, et je cite, « une source exceptionnelle pour analyser les mots, pour le dire, et par-delà, les conceptions du handicap sous-jacentes ». La première chose à préciser est que ces registres n'étaient pas écrits par du personnel médical, mais par des greffiers ou des secrétaires. L'on comprend alors que la plupart des termes employés pour qualifier les résidents étaient plutôt vagues. Ainsi, l'on retrouve des termes comme « caduc », « fatigue » ou à partir de 1740 « usé » pour faire référence à un âge avancé. Les maladies en général peuvent également être décrites comme des incommodités ou des infirmités. Pour illustrer cela, prenons l'exemple du soldat Ferding, admis aux Invalides le 27 novembre 1711, qui, vous allez le voir, a bien mérité sa place au sein de l'institution. Je cite « est estropié de la jambe gauche d'un coup de fusil qu'il reçut au siège de Barcelone, et depuis s'est démis le genou gauche d'une chute qu'il fit en patrouille à Saint-Éloi, proche d'Arras, le mois de juin dernier, est encore estropié du poignet gauche d'un coup de pierre qu'il reçut à Barcelone, joint à une oppression de poitrine et sa faiblesse de vue provenant d'un coup de fusil qu'il reçut à la tête, le met hors service, porteur d'un ordre de monseigneur voisin pour être reçu pourvu qu'il ait les qualités requises. » Fin de citation. Comme le souligne Joël Coste, on retrouve très régulièrement le mot « joindre » dans les registres puisqu'il figure à la deuxième place des verbes les plus utilisés avec 1278 occurrences sur 11 528 registres analysés. C'est ce terme peu savant qui était utilisé pour décrire une multitude de causes qui expliquaient la présence dans l'institution. Au fil des décennies, le discours évolue et les pratiques des greffiers également. Ainsi, il est possible de noter que les registres comprenaient de longs résumés sur l'état de santé des entrants dans les premières années de l'institution. Des résumés qui se sont réduits en taille au fil des décennies puisque l'on commence à attacher moins d'importance à certaines afflictions liées à l'âge, par exemple. On simplifie également les termes utilisés pour décrire telle ou telle pathologie, ce qui ne représente pas une avancée mais plutôt un appauvrissement conceptuel que Joël Coste attribue à de nombreux facteurs comme la lourdeur administrative lors de périodes d'afflux massif de soldats blessés, l'installation d'une routine administrative ou la délégation de tâches à des sous-secrétaires négligents voire paresseux. Quoi qu'il en soit, l'analyse en détail des registres montre tout de même une analyse élaborée du handicap, pas si lointaine de notre conception contemporaine. Aujourd'hui, le cadre de référence pour l'évaluation du handicap nous vient de l'Organisation mondiale de la santé à travers la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé, la CIF. La dernière version de ce document, qui date de 2001, se veut la plus universelle possible. Il est donc intéressant de noter que, bien que le vocabulaire utilisé aux Invalides fût hétérogène, une grande partie de ce dernier peut s'apparenter à la catégorisation présente dans la CIF, sans pour autant faire preuve d'anachronisme. Ainsi, Joël Coste nous précise que, et je cite, « au prix d'un aménagement mineur avec la distinction entre les facteurs environnementaux concernant proprement le sujet et les facteurs environnementaux sociétaux, et avec l'addition de trois catégories supplémentaires pour l'ancienneté, la cause et le contexte de survenue des problèmes, tous les champs lexicaux du discours trouvés à s'insérer dans une catégorie conceptuelle de la CIF, en particulier les champs lexicaux des limitations des fonctions, d'activités et d'exercices professionnels pouvant être aisément associés aux catégories conceptuelles des fonctions organiques, activités et participation de la CIF et les champs lexicaux des protections, attestations et statuts et des caractéristiques personnelles pouvaient l'être assez naturellement aux catégories des facteurs environnementaux et des facteurs personnels de la CIF. » Il est intéressant, nous précise toujours Joël Coste, d'observer que ces derniers facteurs qui ont été introduits dans la CIF en 2001 pour reconnaître et souligner le rôle important du contexte sur les relations entre les problèmes de santé et le handicap, et entre parenthèses, et sa prise en charge, étaient déjà manifestement considérés comme pertinents pour l'admission dans une institution comme l'Hôtel Royal des Invalides au XVIIe et XVIIIe siècle. Fin de citation. Pour conclure ces deux épisodes sur l'Hôtel Royal des Invalides, précisons que sa fondation permit notamment à la royauté de reprendre la main sur la charité et l'hôpital, deux domaines jusqu'alors réservés ou délégués à l'Église. Enfin, citons une dernière fois Elisabeth Belmas qui nous explique que, et je cite, sa fondation marque les débuts d'une politique de santé publique poursuivie par les successeurs de Louis XIV. Entre les murs de ces infirmeries s'est défini un modèle hospitalier qui s'est généralisé par la suite. Leur organisation interne, service, hiérarchie, enseignement clinique, pharmacie centrale, a servi de référence aux hôpitaux civils du XIXe siècle. C'est en outre le premier établissement où le handicap lié aux blessures ou à l'âge est pris en charge de façon systématique, illustrant ainsi le rôle décisif joué dès le XVIe siècle par la médecine et la chirurgie militaire dans la construction de savoirs médicaux et des pratiques médicales en France. La Révolution française sera une période difficile pour l'institution. Le 14 juillet 1789, le bâtiment est pris d'assaut par la foule. Les gardes prennent la décision de ne pas faire feu malgré les ordres contraires. Et ce sont les pensionnaires eux-mêmes qui ouvriront les portes, permettant ainsi d'éviter un bain de sang. Mais le pillage de l'institution, lui, ne sera pas évité puisque de nombreuses armes et canons seront récupérés par la foule. Un arsenal qui sera utilisé un petit peu plus tard dans la journée lors de la prise de la Bastille. L'existence même de l'Hôtel Royal des Invalides sera remise en cause de nombreuses fois dans les années suivantes, notamment à cause de son coût d'entretien faramineux. Les bâtiments seront pillés plusieurs fois, mais l'institution continuera d'exister tant bien que mal jusqu'à l'arrivée au premier plan de la société française d'un jeune général très prometteur, Napoléon Bonaparte. L'ascension fulgurante de Napoléon coïncidera avec une certaine renaissance de l'institution pendant et après la Révolution française. Ses restes y sont toujours présents et son impressionnant tombeau est toujours aujourd'hui un élément attractif pour les 4 millions de touristes qui visitent l'institution chaque année. Nous l'avons très peu évoqué, mais l'architecture des bâtiments fut pensée pour assurer l'accessibilité pour les résidents handicapés. Elle comportait des rampes et d'autres infrastructures pour faciliter la déambulation des personnes handicapées dans le complexe. Les Invalides ont finalement servi de modèle à des institutions similaires établies dans d'autres pays. Sa mise en œuvre réussie et la prestation de soins aux anciens combattants handicapés ont inspiré la création de foyers et d'hôpitaux pour anciens combattants dans différentes parties du monde. Citons par exemple la fondation du Royal Hospital de Chelsea en 1682 par le roi d'Angleterre, Charles II, la Maison Royale des Invalides de Berlin, fondée en 1748 par le roi Frédéric II, ou encore le National Home for Disabled Volunteer Soldiers, fortement inspiré par les Invalides et fondée après la guerre de sécession aux États-Unis en 1865. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast de La Science, Quelles Histoires. J'espère que ce sujet vous a plu et pour terminer, précisons comme toujours que cet épisode, comme tous les autres de notre chaîne, a été écrit sans parti pris ni préjugé. Nous faisons en effet tous les efforts possibles pour vous apporter des textes clairs, précis et basés sur des sources fiables. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, évaluations et petites étoiles sur différentes plateformes de podcast ainsi que sur notre site internet fondation-ipsen.org ou notre page Facebook Fondation Ipsen. Merci à tous de votre soutien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un tout autre sujet. Thank you.